voyez, accepter sa conscience. Accepter sa conscience, c'est dépasser sa conscience psychologique. Ah, moi je ressens ci, ah, moi je ressens ça, ah, je ne sais pas si je veux, pas d'accord, vous voyez, oh, pff, tu m'énerves, je ne sais pas, oh, je ne sens pas, ah oui, non, ah, voilà, ras-le-bol, hein. Vous voyez, je réagis, la conscience psychologique qui réagit, en fin de compte, qui est centrée sur son sentiment, au lieu d'être centrée sur le bien. Vous voyez, la conscience va discerner le bien. Et non pas, elle discerne le sentiment. D'ailleurs, vous voyez le mot sentiment. Le sentiment. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir, mesdames, des émotions, des réactions fines, des manières d'être très, très féminines. Ça, c'est très bien. Mais le sentiment est ordonné au bien. Voilà. Il ne faut pas se laisser envahir par les émotions, les passions. Donc il nous faut d'abord accepter. Voilà. Donc le texte que je vous présente, c'est la position de l'Église par rapport à la conscience. Voilà. C'est la position de l'Église par rapport à la conscience. Donc on prend un petit quart d'heure et après on va essayer d'en ressortir les points fondamentaux. Donc l'idée à laquelle j'aimerais vous confronter, c'est qu'effectivement il faut accepter sa conscience, le sanctuaire de Dieu, mais c'est à travers l'affirmation suivante. Pour bien comprendre cette phrase qui est un petit peu dense, si nous sommes responsables devant notre conscience, hein, nous sommes aussi responsables de notre conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Parce que ça, c'est la problématique de fond. Si nous sommes responsables devant notre conscience, nous sommes responsables... de notre conscience. Alors ça veut dire quoi être responsable devant sa conscience? Voilà, l'écouter, tout à fait, l'écouter devant l'obéir. Ça veut dire que, effectivement, toute chose que l'on doit... On pose des actes, on pose des choix dans la vie. Et ces actes, ils doivent être en accord avec notre conscience. Vous voyez ? Moi, c'était m'arrivé de voir, je prends des analogies qui vous concerneraient éventuellement. Hein. Il y a une jeune fille qui était comme poussée au mariage par une ambiance familiale où les familles s'entendaient bien, etc. Et la veille du mariage, elle a dit « je ne veux pas t'épouser ». Elle s'est barrée. Parti. Donc en conscience, voyez, en conscience, ben, c'est une catastrophe familiale. Mais quelle chance pour cette sœur, pour cette fille. Parce que ce qui est premier, c'est d'abord la conscience de chacun. C'est d'abord la conscience de chacun. C'est-à-dire que les familles, etc., le bien maintenu social, il est au service de la liberté de chacun. Et donc vraiment en conscience, elle a cheminé, et puis la veille, elle est une semaine avant, elle s'est engueulée avec son fiancé, ça arrive souvent, hein. Avant le mariage, une semaine avant, on s'engueule. Hein. Alors, même pas, c'est normal, je ne veux pas dire que ça va aller à la rupture comme ça. Et la veille, elle a prié. La veille, en conscience, non. Et donc ça, c'est sûr que ça l'a fait cheminer, ça a fait mal à tout le monde. Mais son fiancé, qu'il aimait vraiment, il a dit, bah, François, je te respecte, prends bien soin de toi. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Hein. 2 ans après, elle est revenue. Ils sont mariés. Elle n'était pas prête, c'est tout. Elle était comme pressée par des... Voilà, c'est sûr qu'après, ça s'est fait dans l'intimité, le mariage. Hein. Le traiteur, on le paye qu'une fois. Mais elle ne se sentait pas libre. Elle ne se sentait pas libre. Et vous savez que la condition de validité d'un mariage, il y a 3 critères cumulatifs. Hein. C'est la liberté, la fécondité en puissance, de vouloir avoir des enfants, et la fidélité. Donc si vous mettez en évidence que vous n'êtes pas libre le jour de votre mariage est nul, marqué par une nullité de mariage. Voilà. Donc c'est très important de suivre sa conscience. Et donc ici, de la former. Ce que veut dire responsable de ma conscience. Devant ma conscience, ben, je dois obéir à ma conscience. Si ma conscience me dit vraiment, vérité, demain, tu te maries, et ben c'est un mal pour toi, et ben tu ne dois pas te marier. Ça va très loin, ça. Saint Thomas d'Aquin, il va jusqu'à dire que, ben, que si pour moi, en conscience, croire en Dieu et en Jésus n'est pas un bien, je dois refuser de croire en Jésus. Entre guillemets, vous voyez à nouveau, le travail de la conscience, c'est le travail, je reconnais en conscience que ça pour moi c'est un bien. Et la fidélité à sa conscience, c'est la fidélité à l'amour du bien. On n'est pas dans l'endoctrinement. Dans ma conscience, tiens, pour moi, cette décision va être un bien. Croire en Dieu, pour moi, ce n'est pas un devoir. C'est un bien d'abord. Et après, c'est un devoir. Le devoir de religion, c'est le premier devoir, d'honorer Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné l'existence, il nous donne l'existence dans l'instant présent, il nous donne tout, il maintient tout dans son existence, la terre. Voilà. La vertu de religion, c'est la première des vertus à mettre en œuvre. Mais pour autant qu'on reconnaît que c'est un bien. Alors vous voyez que là, le travail de la conscience, c'est ça. Et finalement, je dois obéir à ma conscience, mais je dois la former. Former ma conscience. Donc mon premier devoir, ça va être de former ma conscience. Et ça, je suis responsable de la former. Donc vous voyez, par exemple, face à une décision... importante face à un choix de vie, ben, je vais me laisser éclairer par plusieurs points de vue. Voilà. Je vais dialoguer avec mon fiancé, je vais dialoguer avec les amis, etc. Je vais prendre des points de vue pour vraiment que ça devienne un bien pour moi. Vous voyez, on ne s'engage pas dans le mariage ou dans la religion par devoir. C'est un devoir de m'engager parce que c'est un bien pour moi. Ah oui, mais le devoir suit le bien. Bon, après, il ne faut pas faire marche arrière. Si une fois j'ai reconnu que marier c'était un bien pour moi, et qu'après, ben, il faut être fidèle ensuite à ce bien. Et la fidélité va traverser les épreuves pour que ce bien soit un bien vraiment gratuit. Donc si mon premier devoir, c'est de former ma conscience, mon devoir ultime, c'est de suivre ma conscience. Mais vous comprenez bien que je suis ma conscience. Je suis ma conscience parce que je l'ai formée. Et je suis responsable de la former. Et avant d'être responsable de la former, il faut que j'accepte. Je dois accepter d'avoir une conscience. Entre guillemets, il faut que je me laisse interpeller dans ce cœur profond qui est en moi, voilà, qui me dit, tiens, est-ce qu'en vérité, Tanguy, en vérité, voilà, est-ce qu'il faut que tu fasses ceci? En vérité, en vérité, en vérité. En vérité, vous laissez résonner dans votre cœur profond. Voilà. Et après, c'est pourquoi vous comprenez que l'accompagnement spirituel, c'est presque un nécessaire. En même temps, c'est toujours un acte libre, l'accompagnement spirituel. Parce que c'est le lieu où on va parler de ces tâtonnements. Je sais pas, je sais, j'hésite. Vous voyez, cette ouverture du cœur qui se fait lentement. Tiens, dans mon cœur, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement d'attirance, il y a un mouvement de répulsion. Voilà. Et on va avoir un lieu où on peut partager la profondeur de son cœur. Et après, fort du dégagement un peu de ses émotions, ses sentiments profonds, de nommer le bien et de nommer ce qui n'est pas bon. Et lorsque j'ai attesté ce bien, ben je vais y obéir. Je vais obéir à ce bien-là. Et, comme vous l'avez vu dans le texte, personne ne peut se substituer à votre conscience. Personne. L'Église ne se substitue pas à votre conscience. Donc, être fidèle à l'enseignement de l'Église, c'est être fidèle à quoi? C'est être fidèle au bien que veut l'Église pour moi. Mais c'est de traduire tout l'enseignement de l'Église sous la forme d'un bien, d'une reconnaissance, d'une adhésion. Et bien sûr, je ne pourrais dire que je suis catholique que si j'adhère à tout l'enseignement de l'Église. Mais ma conscience, si à un moment, elle tâtonne, en vérité, hein, si vraiment, en ayant discuté, je considère que c'est pas un bien, mais je dois suivre ma conscience. Il faut l'éclairer jusqu'au bout. Et comme dit Cantal la Messa, celui qui éclaire jusqu'au bout sa conscience arrive à faire l'expérience du renoncement à ses propres idées. Vous voyez ? Celui qui va jusqu'au bout d'être éclairé dans sa conscience, à un moment, il va renoncer à lui-même. Parce qu'il va voir qu'il y a plus grand que lui-même. Et qu'au fond de lui-même, il est traversé par un plus grand que lui-même. Qui donne l'horizon, qui donne le sens. Et en fait, la formation pratique de la conscience aboutit à faire l'expérience de renoncer à ses idées propres. Et là, il y a une forme de chemin de croix. Et non pas d'alibi, voilà, je forme ma conscience, et puis voilà, en fin de compte, je fais ce que je veux. La conscience est un alibi, non. La conscience vraiment éclairée aboutit à un renoncement à soi-même. Au sens, pour découvrir qu'il y a un au-delà de moi-même qui est plus grand. Voilà. Comme je le disais ce matin, par exemple, la fidélité conjugale, mon mari, deux jambes coupées, un bras paralysé, eh ben, je découvre que dans la fidélité dans le mariage, au cœur même de cette douleur immense, il y a un amour plus grand qui va se déployer dans notre relation, plus gratuit, c'est sûr. Mais ça, il faut cheminer. Donc la conscience, je dirais, suit un cheminement de vérité, et où la vérité rend vraiment libre. Et en même temps, rendant vraiment libre, elle nous conduit à renoncer à l'autosuffisance de notre liberté qui veut s'auto-affirmer.